Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Avant de vous donner le sommaire de cette émission, j'aimerais vous faire entendre un document sonore réalisé hier soir au stade Pierre Mauroy en levée de rideau du deuxième Supercross de Bercy-Lille.
Bonsoir, bonsoir la France. Nous venons de vivre, vous venez de vivre, la France vient de vivre des événements dramatiques durant ces 24 dernières heures et bien évidemment tout le monde est concerné. Alors déjà, merci d'être avec nous ce soir et si vous le voulez bien, nous allons commencer tout de suite par vous lire quelques mots qui viennent d'être écrits par le président de la Fédération Française de Motocyclisme et qui sont évidemment totalement, totalement nécessaires pour que nous donnions clairement le sens de cette soirée. Message de Jacques Boll, président de la Fédération française. Vous n'ignorez pas le drame survenu à Paris au Stade de France la nuit dernière. Tous les acteurs et tous les fans du sport moto sont bien sûr de tout cœur avec les victimes de ces événements terroristes. Si les organisateurs et la Fédération ont souhaité maintenir le Supercross de Lille, c'est parce que nous considérons que c'est la meilleure réponse à ces actes inqualifiables. C'est montrer ainsi que nous n'avons pas peur et que la vie continuera afin que nos valeurs puissent perdurer. En signe d'unité, s'il vous plaît, en signe d'unité, je vous propose, je vous rappelle que c'est le président qui vous propose de la Fédération française de motocyclisme, de vous associer maintenant avec nous au deuil national promulgué par le chef de l'État. En mémoire de ceux qui sont décédés, et en solidarité aux blessés, je vous demande, bien sûr maintenant, de bien vouloir vous lever et de respecter une minute de silence. Maintenant.
Voilà, la minute de silence, on pourra pas le faire à la radio, hein, parce que ça s'appelle un blanc, et un blanc d'une minute, ça fait beaucoup. Voilà, donc c'était le lever de rideau hier soir, donc pour ce deuxième Supercross de Bercy-Lille, hein, désormais, apparemment, qui va perdurer certainement ici à Lille. On va revenir au sommaire aujourd'hui de cette émission avec nos invités, Claude Bonduel et Nicolas Poiret. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Un moteur qui passait en face du studio, mais non, c'est pas vrai parce qu'on s'est quand même contacté durant cette semaine. Enfin, on l'a eu au moins un téléphone dimanche dernier. Il était à Valence. C'est Nicolas Langlas.
Bonjour.
Bonjour Nico.
Tous les autres.
Bien rentré.
Nickel.
Impeccable. Alors on va dire que t'as assisté toi à ce dernier Grand Prix. Hein, voilà, t'étais là-bas sur place, dans les tribunes,
ouais,
sur le circuit Ricardo Tormo.
Ouais. Et puis c'était magique, l'ambiance. Super quoi, à part un peu déçu parce que bon, on ne s'attendait pas à ces résultats, mais c'est
alors
le sport.
Déçu parce que tu voulais que ce soit Rossi qui gagne, c'est ça?
Bah ouais, j'aime bien, c'est mon pilote fétiche, cela dit, c'est le sport et il faut que ça reste noble.
Ah, très bien. Et puis un autre moteur qui passait dans le coin, tiens, c'est Jean-Pierre Bonduel. Tiens, c'est marrant, vous avez le même nom, Claude et Jean-Pierre Bonduel. C'est curieux, tiens.
Ouais. Dans le Nord, c'est
vous êtes de la même famille?
Dans le Nord, c'est courant, mon Dieu.
D'accord, très bien. Voilà, on va revenir, Nicolas. Alors, on a deux Nico là. Hein. Donc, Nicolas, on va notre Nico Webmaster. On va revenir on va décortiquer cette saison 2015. Hein,
ouais,
avec,
faire le bilan.
Avec
ouais.
Un bilan de tout ce qui s'est passé, mais dans les trois catégories, il n'y a pas que le MotoGP quand même. Hein. Il y a la Moto 2. Alors, Moto 2, attention.
Oui. On a un champion du monde.
On a un champion du monde, hein. Claude.
Oui, un champion du monde.
On le dit plus, avec plus de sourire, on a un champion du monde.
Il y en a eu un, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça fait déjà un paquet d'années.
Un champion du monde
en moto 2.
En moto, un français, écoute, il ne faut pas se priver quand même.
Et celui-là, c'était. Il a vraiment survolé la saison, donc on pouvait pas lui reprocher de.
Oui, puisqu'il a le record même de victoire, même de tous les pilotes français en champion du monde.
Oui, en plus. Alors lui, on ne pouvait pas le rattraper, c'est sûr.
Si il y a un pilote qui en a plus. Mais on ne peut pas considérer comme une moto, c'est un sidecar. Alain Michel, ouais, avec 18 victoires.
Oui, alors là, tu vas rechercher loin. Ah, mais bah c'est pour ça que t'es l'invité de cette émission, parce que toi, t'es une bible.
90 ou 91, ah, oui, Alain Michel
92.
On va lui demander,
90,
tiens.
C'est pas avant 92
90.
90, ouais. 90.
En 1945, qui a gagné le Grand Prix
Il n'y avait pas de championnat.
Bien joué, t'as vu, Claude, il sait tout.
C'est une bible.
Voilà, on va aussi parler de la Moto 3.
On avait des gros espoirs sur un petit Fabio Quartararo là.
Mais il s'est fait mal.
Il s'est fait mal.
Il s'est fait mal. Ah bah c'est sur première saison quand même. Hein.
Exactement.
Non,
exactement.
Je pense qu'il s'est mis la pression tout seul. Petit à
petit. On lui a mis la pression aussi.
On lui a mis. Oui, les médias lui ont mis la pression, mais lui-même, parce que verbalement, pour lui, il voulait gagner. Hein.
Oui.
Alors c'est vrai qu'il a fait deux podiums dans l'année. Mais je crois qu'il a poussé trop loin. Il n'a pas essayé de finir les courses, il a essayé de gagner au podium. Donc
ouais, il a chuté. Il a gagné deux fois le championnat espagnol, hein, mais deux ou trois fois. Ouais. Mais bon, après, c'est une marche supplémentaire, la Moto 3, hein, quand même.
Regardez le deuxième qui est terminé deuxième au championnat d'Espagne, Navarro. Lui, par contre, il est monté en puissance jusqu'à la fin d'année.
Ouais.
Il a terminé quand même septième ou huitième en championnat. Bien, hein.
Ouais.
Bien.
Voilà, très bien. On a planté le décor donc pour ce sommaire. Nous allons avoir aussi Bertrand Lebrun, qui est rédacteur adjoint à la Vie de la Moto. Il va nous parler du 18e Salon Moto Légende qui aura lieu le week-end prochain donc à Paris, parc de Versailles, à Vincennes. Vincennes, voilà. Ouais. Et puis aussi Nathalie Petitpré pour le don du sang des motards demain, lundi 16 novembre, à Flers en Escrobieux. Voilà. On va présenter Christine qui est en. Elle est supportrice
de Rossi, supportrice
de Valentino Rossi.
Oui, je suis une pro Rossi.
Bien déçue le week-end dernier, malheureusement. Elle le dit, tu vois, Nicolas.
Je suis une pro Rossi. Voilà. Vraiment, j'aurais voulu une autre bagarre que la bagarre qu'il y a eu là.
Enfin, alors, elle aimait bien aussi Marquez, tu vois, elle dit, finalement, c'est le sport. Mais finalement, je crois que là, elle n'aime plus du tout. Hein.
C'est pas que je l'aime plus, mais bon, il faut qu'il grandisse, qu'il prenne un peu de maturité. C'est un jeune garçon, donc.
Voilà. T'as une petite idée là-dessus, tu nous l'expliqueras un peu. Avec les jeunes qui respectent plus les vieux.
C'est ça, les valeurs.
Ne respecte plus les valeurs. Mmh. Voilà, très bien. Et puis pour terminer, nous allons présenter notre technicien émérite.
Bonjour à tous.
Le Rolo.
Et on fait un petit hommage au groupe qui jouait vendredi soir au Bataclan. Comment il s'appelle ? Eagles of Death Metal. Et c'est pas du Death Metal, hein, attention. I love you all the time.
Time.
Magazine de la moto, c'est sur Campus tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui, on revient un petit peu, on va décortiquer cette saison, enfin, ce championnat du monde de vitesse 2015. On va commencer par la fin, pour une fois, avec forcément ces deux, les deux derniers grands prix, ou même trois, Australie, Malaisie, puis Valence. Hein, il s'est passé plein de choses. Il y avait 7 points d'écart entre Lorenzo et.
9, puis 7,
et,
puis
5. Oui, 5. Ouais, ouais. Et donc, on se faisait. Nous, on se préparait à une finale, mais en apothéose.
En apothéose.
Quelque chose de formidable.
Surtout qu'en Australie, on avait revécu.
Et il s'est passé quelque chose, des faits. Alors, quel goût vous laisse cette saison, messieurs ?
Ben, de l'amertume, quand même. Hein. Oui. De l'amertume, parce qu'on n'a pas eu. Oui, on n'a pas eu.
Un beau gâchis.
On n'a pas eu ce à quoi vous attendez. On avait le droit à notre une explication à la loyale entre Rossi et Lorenzo, et on ne l'a pas eu. Et je crois que le problème, c'est que ben, le plus rapide en piste, c'était pas, il ne pouvait pas être champion du monde. Donc, il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que qu'embêter le monde. Quoi. Donc,
le plus rapide en piste.
Bah, c'était Marquez.
Marquez.
Non, Lorenzo, quand même, au niveau des essais, a prouvé largement, puisqu'il a battu quand même 4 fois dans l'année. La pole position, c'est lui qui l'a fait aussi, hein, Lorenzo. Sur un tour, il est excessivement rapide.
Ouais. Plus que l'année dernière. Moi, honnêtement, pour moi, Marquez, c'est certainement le plus fort. Il y a eu des ennuis cette année, mais c'est le plus fort.
Ah, ouais. Voilà. Alors, donc, le débat est lancé. Voilà. On a un pro Marquez, on a des pro Rossi. Il nous faudrait des pro Lorenzo, peut-être.
Ça va être plus dur.
Ça va être plus dur.
Non, moi, je dis que Lorenzo, vis-à-vis de cette année, vis-à-vis des temps aux essais, des temps réalisés en course et l'ensemble de la saison, c'était le plus rapide.
Ouais. Moi, je dis qu'ils ont tous les trois perdu. Lorenzo, il a perdu parce qu'il est champion, mais personne n'a envie de le fêter. Rossi, ben, ses chances d'avoir un 10e titre, ça menuit sérieusement. Et Marquez, ben, c'était l'enfant prodige du MotoGP, tout le monde l'admirait, et puis là, maintenant, son image est sérieusement écornée.
Ça va lui faire mal.
L'image est écornée, mais bon, je pense que
ça va pas
Rossi,
être facile.
Rossi est quand même connu pour être un manipulateur et puis un affabulateur.
Ah non,
et
pas
en fait,
un manipulateur,
il a bien joué son jeu en enfonçant Marquez, en le faisant passer pour un méchant, et là-dessus, il a bien réussi.
Moi, je dirais, pourquoi Marquez a-t-il aidé Lorenzo ?
Alors oui. Alors, c'est vrai que...
Ça dépend de ce qu'on appelle aider.
Moi, je suis convaincu que...
Perturber aussi.
On assiste maintenant à un championnat des nations, maintenant. C'est espagnol contre...
Par équipe.
Équipe. Ouais. Alors, ils sont dans des marques différentes, mais on a l'impression qu'ils s'aident entre eux.
Moi, je suis persuadé que si ça avait été Rossi Nicolas. Qui était devant, Marquez aurait porté une attaque. Il l'a fait à Sen.
Nico était là-bas.
J'étais à Sen quand Marquez a poussé Rossi avant la ligne d'arrivée. Donc je vois pas.
Ah oui, alors on va revenir à ça. Alors
je vois pas pourquoi il n'aurait pas fait.
C'est un constat.
Une personne à la fois.
Je vois pas pourquoi il n'aurait pas fait à Valence, alors que à Valence il est resté derrière Lorenzo toute la course. Si ça avait été Rossi qui était devant, là
il aurait porté
une attaque, c'est sûr et certain. Il aime les attaques fortes et musclées, donc je vois pas pourquoi il a resté derrière Lorenzo toute la course.
Moi j'ai mon idée, hein.
Moi
je suis convaincu que de toute façon il voulait faire gagner Lorenzo.
Ah oui, c'est inconcevable de penser ça. Comment peut-on penser qu'un pilote Honda va aider un pilote Yamaha à gagner le championnat du monde? C'est n'importe quoi.
Effectivement, Jean-Pierre, c'est inconcevable.
9 titres, c'est plus facile à battre que 10 titres.
Voilà.
Ah oui, oui. Parce que si jamais Rossi gagnait, ça faisait 10 titres. Comme Marquez voudrait bien battre son corps, bah, c'est plus compliqué.
C'est parce que c'est inconcevable qu'on discute comme ça. C'est incroyable. On n'a jamais vu. En plus, c'est deux marques différentes.
Attends, mais
deux marques rivales.
Et en plus, il n'y aurait pas eu de champion espagnol cette année s'il n'y a pas eu Lorenzo.
Alors, il n'y avait pas un champion espagnol.
Et ouais. Ça, c'est grave parce que MotoGP, tout repose sur le. Il y a quand même 4 grands prix qui sont en Espagne. Toute l'organisation est espagnole. Le plus gros sponsor est espagnol. Il fallait un espagnol. Donc, c'est le sacrifice. Hein.
Ça, c'est le seul doute qu'on peut avoir. Parce qu'à mon avis, si Marquez, comme certains peuvent le penser, a marqué le pas et a protégé Rossi, c'est pas lui, c'est pas Honda, c'est pas Yamaha, ça vient d'au-dessus. Et pour moi, c'est la Dorna qui a peut-être demander à ce qu'il y ait un champion du monde espagnol. Et dans ce cas-là, effectivement, il.
Juste. Alors là, de toute façon, il y a de l'argent qui rentre en jeu, peut-être.
Juste une petite chose.
Et si on oubliait la théorie du complot, on penserait juste à une histoire d'homme.
Voilà, une histoire d'homme. Moi, je pense plutôt ça. Voilà.
Ah,
parce
ça,
que
c'est autre chose.
Australie.
Alors attendez, moi j'ai un interview d'un ancien pilote.
Oui, en Australie, n'oublie pas que Marquez a battu Lorenzo. Et c'est 3 grands prix avant la fin. Il aurait pu le laisser gagner. C'était facile.
Il a battu dans le dernier tour, il était 4e à l'entame du dernier tour. Il a joué toute la course avec tout le monde et de quatrième est passé à premier en un tour.
Alors
en dernier tour.
En Australie, il était nettement au-dessus du lot. Ouais, voilà. Jorossi n'a pas tort quand il dit qu'il a été gêné par Marquez. Il a gêné Marquez. Et en fait, dès qu'il a pu, il a montré qu'il était nettement au-dessus du lot. Il a passé tout le monde.
Bon, moi, j'ai un enregistrement que j'ai fait hier soir d'un ancien pilote, Jean-Michel Baille.
Ah, quand même.
C'est
champion du monde.
Champion du monde.
Multiple champion du monde.
C'est pas n'importe quoi.
Il n'y a pas ça dans sa poche.
Vous allez voir. Il nous dit un peu ce que je pense. Et. Alors, peut-être Jean-Pierre, il va être déçu, peut-être. Mais finalement, vous verrez, vous allez entendre ce qu'il dit. Et je pense que c'est finalement peut-être la vérité. Mais on va passer à un morceau de musique. On va passer à un morceau de musique avant, parce qu'il n'est pas calé l'interview. On va le faire pendant le morceau de musique. One day long, but you couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Diamonds. A candle throws its light into the darkness. In a nasty world, so shine a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why the first ask is the last to give every time. What you say. Aujourd'hui, on essaye de. Ah, un petit peu de micro.
J'ai pris le micro de... Oui, ça marche.
Non, ça marche.
Ça marche.
Ouais, bien sûr.
C'est moi qui marche pas.
Ah bon?
Ok, voilà. Donc on essaye de décortiquer cette saison, ce championnat du monde de vitesse 2015. C'est pas facile parce qu'on parle justement de ce qui s'est passé sur les trois derniers Grands Prix. Il y a eu des événements.
Ouais, justement, on parle un peu trop de ça.
Voilà.
À mon avis, hein, mais bon.
Et hier, j'ai eu la chance d'avoir Jean-Michel Bay. Donc.
Voilà. Ah bah c'est mieux, voilà, mon micro fonctionne. Ouais, donc j'ai rencontré Jean-Michel Bay hier soir, donc il était 23h, avec une petite interview, et je lui ai demandé justement ce qu'il pensait de ce qui s'était passé, hein, s'il trouvait que Marquez avait pas un peu ralenti Rossi, ou il y avait pas une espèce de pro-italien ou pro-espagnol. Effectivement, on se pose des questions, on n'a jamais vu ça, non. Dans les Grands Prix. Donc je vous propose d'écouter l'interview.
Voilà, je suis en compagnie de Jean-Michel Bay. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Voilà, j'aimerais avoir ton opinion sur la fin de saison du championnat du monde de vitesse 2015.
Ah, un peu un goût amer, quoi, parce qu'elle s'est finie un peu en beaucoup de discussions, en beaucoup de remises en cause. Et ouais, c'est dommage que ça soit fini comme ça, parce que la saison était magnifique.
Alors justement, on s'attendait à avoir une fin de saison d'apothéose, un spectacle fantastique avec un Lorenzo et Rossi qui, avec très peu de points de différence, donc on s'attendait à un spectacle fantastique et ça n'a pas eu lieu.
Non, ça n'a pas eu lieu pour plusieurs raisons, hein. Je crois qu'on les connaît tous. Bon, je crois que le fait que Rossi déjà prenne une pénalité pour la dernière épreuve, c'est ce qui a un peu gâché la fête. Parce que je pense pour Lorenzo, je pense que ça aurait été mieux s'il avait été champion avec une égalité de chance par rapport à son concurrent direct qui est Valentino Rossi. Même s'il ne démérite pas son titre, voilà, on a l'impression qu'il a été un peu volé. En plus, il y avait un peu une histoire aussi de pays avec l'Espagne et le reste. Donc, ouais, c'est pas une très belle fin de saison, mais bon, c'est comme ça.
On a l'impression que c'est un championnat des nations maintenant, c'est espagnol contre italien alors.
Ouais, c'est ce qui donne l'impression, j'ose ne pas y croire au fond de moi, mais si on regarde un peu les choses, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc ouais, c'est un peu décevant parce que Lorenzo, qui est un grand champion, méritait de gagner de façon plus claire. Et moi, je suis déçu pour Rossi, parce que j'aurais préféré qu'il se fasse battre en ayant toutes ses chances. Et je suis déçu pour Lorenzo parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et j'aurais préféré qu'il gagne par rapport à ses valeurs personnelles de pilote parce qu'il les a. Il les a, il n'avait besoin de personne pour être champion du monde et il n'avait surtout pas besoin d'un autre pilote pour l'aider.
Alors Malaisie, qu'est-ce qui s'est passé? Rossi qui on se demande, il est un peu énervé par Marquez, hein, mais il faut avouer que franchement, Marc Marquez, la doublée 9 fois sur un tour, c'était quand même assez étrange. Quoi.
Il y a deux questions à se poser, c'est est-ce que Marquez s'est intercalé dans la course au titre? Oui. Est-ce que Rossi a fait tomber Marquez? Oui. Voilà. Après, c'est pourquoi les choses ont eu lieu. Et c'est là qu'il faut se poser des questions. Mais Marquez n'était pas clair non plus dans son attitude dans la course. Donc Rossi a réagi par rapport à ça. Voilà, nous, honnêtement, ce qui s'est passé entre la chute de Marquez en Supercross, c'est quelque chose qui peut se dérouler à tous les tours. C'est rien de surprenant. On n'a pas trop l'habitude de voir ça en vitesse, mais en cross, c'est quelque chose qui se passe tout le temps, donc moi, ça ne m'a pas choqué.
Alors, est-ce que c'est normal qu'un pilote qui avait, en Malaisie, il avait 60 points ou 70 points de retard donc au championnat, est-ce que c'est normal qu'il vienne s'intercaler dans un pilote qui, lui, joue le titre?
Pour moi, il y a une éthique, c'est que tu te mêles pas à la course au titre. Quand tu n'as plus aucune chance, tu laisses les pilotes se débrouiller entre eux. Et t'essayes de pas donner l'avantage à l'un ni à l'autre par respect pour le championnat. Après, si c'est ton coéquipier, ben c'est ton travail d'équipe parce que t'es payé par l'usine pour essayer de faire gagner ton collègue. Ça, je peux le comprendre. Mais quand tu en as rien à voir, je pense que c'est la moindre des choses, c'est de pas se mêler à la lutte et de pas favoriser l'un ou l'autre.
Donc là, on pourrait admettre qu'effectivement, Marc Marquez a un peu forcé les choses et qu'il s'il a chuté, et si c'est vraiment Rossi qui l'a fait chuter, c'est un peu de sa faute quand même.
Je pense aussi, ouais.
Eh bien, écoute, je te remercie.
À bientôt.
Voilà, tout est dit. Jean-Pierre, je suis désolé, mais quand même, Marquez a quand même une grosse responsabilité dans toutes ces histoires.
Non, c'est très intéressant.
Tu vois ? Voilà, alors... Ouais, et c'est pas n'importe qui, c'est quand même un pilote, un ancien pilote.
Il a été pilote en motocross, en supercross et en vitesse.
Et en vitesse.
L'éthique, l'éthique, effectivement, je peux reconnaître que bon, mais ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour se battre.
Alors l'éthique aussi, c'est...
Et en fait, si Rossi avait vraiment voulu balancer Marquez discrètement, il aurait pu le faire. Là, il l'a fait sciemment, parce qu'à mon avis, il savait qu'à Valence, il pouvait pas gagner. Non. Et il s'est sabordé de manière à en sortir la tête haute.
Alors... On revient sur la dernière phrase de Jean-Michel Bay, c'est qu'il dit un pilote qui ne joue plus le titre.
Tu es démasqué.
T'es démasqué. Un pilote qui ne joue plus le titre, qui n'a plus les moyens de jouer le titre parce qu'il a 60 points de retard. Viens pas s'intercaler entre deux pilotes ou deux pilotes qui eux le
bon
jouent le titre.
C'est
de bon sens. Et là, on revient un petit peu avec l'idée de Christine.
C'était une réaction face aux fausses accusations.
Voilà. L'idée de Christine, c'est qu'il
a réagi comme un jeune.
Marc Marquez a 22 ans et les jeunes maintenant.
Oui, enfin voilà.
Alors les jeunes de maintenant, ben...
c'est la gagne, quoi.
Alors, on ne respecte plus les conventions, voilà. Non, mais vas-y, Christine, alors...
Oui, les valeurs...
Les valeurs.
Les valeurs, là, c'était les valeurs de la compétition. Rossi aurait été dans la même situation. Il aurait laissé Marquez. Il n'aurait pas empêché Marquez de rouler. Donc, effectivement, il faut qu'il grandisse, Marquez.
Moi, je pense que Marquez, en faisant ça, il a terni un peu sa carrière. Et il aurait pu remplacer Rossi dans le futur, mais je pense que c'est un peu perdu pour lui.
Non, moi je pense qu'il va grandir et on va à nouveau l'aimer, mais il faut qu'il grandisse un peu.
Non,
il va prendre du temps.
Il y a un monsieur qui ne se faisait pas aimer du tout et pourtant il y a marqué, Douane.
Douane, c'était.
Pour avoir un interview de lui, il tirait toujours une tête pas possible, il partait avant la conférence.
Très compliqué avec les journalistes.
Très très compliqué.
Avec les journalistes.
Et pourtant, il a marqué l'histoire, on ne peut pas dire. Donc,
cela dit, Jean-Michel Bell a roulé avec Douane.
Ouais. Voilà, donc on va faire une petite pause musicale. Donc vous êtes d'accord avec l'interview avec les propos de Jean-Michel Bay
il a tout pris en revue, effectivement.
Alors il dit quand même que Rossi, vous avez entendu, c'est quand même parce qu'il y avait un petit on savait pas si vraiment Rossi avait donné un coup de genou, un coup de pied ou quoi, ou avait fait tomber. Et lui dit si Rossi a fait tomber Marquez. Moi, je trouve que c'est pas...
Ces petits coups de pied, j'ai pas... Mais il paraît qu'il a touché le frein. Hein. Enfin, j'ai entendu...
Mais maintenant, ils ont une protection.
Ils sont vraiment bien visés. Hein.
Voilà, donc voilà.
On saura jamais.
On saura jamais. Non. Bref, mais quand même, Marquez est quand même un petit peu... Mais fortement responsable de toute cette histoire.
Ouais.
Voilà. Oui, il était le chercher, c'est évident.
Voilà.
Ouais.
Très bien. Et de toute façon, on restera sur la dernière phrase, c'est qu'un gars qui a 60 pions de retard au championnat, il vient pas emmerder deux pilotes qui, eux, jouent le championnat.
Le grand responsable là-dedans, c'est Rossi, parce qu'il a allumé la mèche à Philippe Island en accusant Marquez de choses qui n'étaient pas vraies.
Pense que le principal responsable, c'est la direction qu'il faudrait prendre directement pendant la course qui s'est passée. Ce qu'a fait Rossi, il aurait dû faire passer... aussi par les stands.
Et le responsable, ce serait pas la Dormol, justement.
Ils ont trop attendu. Il lui aurait mis 20 secondes à la fin de la course en disant vous avez 20 secondes de pénalité pour ce que vous avez fait. Ça leur aurait balancé en 6e ou 7e place, mais on aurait vécu un dernier Grand Prix.
Normal.
Parce que suivant les stades de Eurosport, il y a 2 millions de téléspectateurs, 2 millions de motards qui regardent des Grands Prix. Vous vous rendez compte un petit peu, il y avait 2 millions de motards, 2 milliards de motards, de téléspectateurs qui s'attendaient à cette finale. Attendez, on n'avait jamais vu ça depuis bien longtemps. Et ben voilà, c'était gâché par qui ? Par un petit jeune, moi je pense que c'est le petit jeune qui a gâché la fête.
C'est un peu tout.
Le petit jeune a réagi face à Rossi, je reste sur ce que j'ai dit, moi, de toute façon...
Comment peut rebondir Rossi, du coup ?
Alors, comment on peut rebondir en 2016 ? Ouais. Alors, je ne sais pas.
Ça va peut-être être un peu compliqué, parce que aux essais le lendemain du Grand Prix de Valence, c'est Marquez qui a déjà fait le meilleur temps avec les pneus Michelin. Donc, après la Yamaha, d'après les dernières informations, elle serait pas très performante avec les nouveaux pneus Michelin et surtout sur le pneu avant.
Du coup, là, on en parlera plus tard parce que l'année prochaine, il va y avoir plein de nouveautés. On change de pneus, de fournisseur de pneus, c'est Michelin. Et après, il y a l'histoire de la.
Et un litre d'essence en moins, encore.
Et encore un litre d'essence en moins. Si ça continue, ils vont pousser.
On va faire 20 litres, 19 litres.
Monsieur, je vous propose de faire une petite pause musicale pour nous décontracter parce que c'est un peu une tension dans ce studio entre les pros, les pros Rossi, les pros Marquez. À tout à l'heure, tout de suite, dans 5 minutes.
crack pills on the street, ride down trams, make ends meet. Another dead cat is lying on the floor, an old prostitute, he ran up a score. And in a $5 room, a sailor gets drunk from gasoline. A lonely bastard, sell bad heroin, a cold, cold shot in a hotbed of sin. A fat rat under a storm lamplight is ready for raid in the chat black night. A lonely bastard, sell bad heroin, a cold, cold shot in a hotbed of sin. Salvation Army, they pay for a round at the party with the devil in the underground. And a lonely bastard sell bad heroin, the cold, cold shot in a hotbed of sin. Storm lamp light is ready for raid in a sad black night. And a lonely bastard sell bad heroin, it's a cold, cold shot in a hot bed of sin. Salvation Army, they pay for a round at a party with the devil in the underground. And a lonely bastard take bad heroin, take cold, cold shot in a hot bed of sin.
Voilà, nous, on va faire une petite parenthèse avec ce décortiquage hein, des Grands Prix hein, de cette saison de vitesse 2015. Nous avons Bertrand Lebrun, rédacteur adjoint à la Vie de la Moto. Bertrand va nous parler de cette 18e édition du Salon Moto Légende qui va se dérouler normalement hein, le week-end prochain. Bertrand, bonjour.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs.
Voilà, très bien, voilà, donc j'ai dit normalement, est-ce qu'il y aura lieu ce salon ou pas ?
Eh ben oui, effectivement, normalement, le problème c'est que je peux pas te dire à l'heure où l'on parle ce qu'il en sera exactement, puisque ben les événements qui nous ont tous un peu abasourdis ont lieu vendredi, donc on saura demain lundi très exactement ce que notre direction aura décidé et surtout ce qu'on pourra faire, puisque comme tu le sais, l'état d'urgence a été décrété, donc on ose espérer qu'on pourra se maintenir notre salon. Je pense que d'ici vendredi prochain, les choses se seront un petit peu décantées. Mais il faut espérer, effectivement, pour tous les gens qui se sont impliqués et qui ont travaillé d'arrache-pied à cette édition, qu'elle puisse se tenir. Bon, c'est sûr que notre passion commune, la moto, paraît un petit peu dérisoire face à tout ce qui se passe. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que les choses se passent bien.
Très bien. Bah, écoute, Bertrand, je propose d'être optimiste. On va parler un petit peu du programme. On va aussi décortiquer hein, ce programme de cette 18e édition. Il y a un podium offert à la marque Suzuki. On va parler de la compétition, les motos de tourisme. Et puis aussi, il y a les 30 ans de cette fameuse GSX-R.
Ouais, alors c'est vrai que dans 18 ans, on n'avait pas encore rendu hommage à Suzuki. Bon, c'était un petit peu une injustice parce que bon, c'est quand même une marque qui existe, enfin qui fabrique des deux roues depuis 1952. Donc, il était temps de lui rendre hommage. Présente aussi en France depuis 1961. Donc, ça nous rajeunit pas. Et en plus, une marque qui s'est illustrée, comme tu le dis, en compétition, quasiment toutes les disciplines. Donc c'est un petit peu une injustice qu'on répare pour cette année. Donc les amateurs de Suzuki auront droit effectivement à une belle expo.
Voilà, il y aura la RG500 qui s'est illustrée aux mains de Barry Sheen.
Oui, il y aura plusieurs motos de compétition. Alors c'est une exposition qu'on veut aussi grand public, c'est-à-dire qui regroupe un petit peu des motos emblématiques de l'histoire de la marque. Je pense par exemple à la GS750.
Oui.
Qui est une moto que peut-être certains auditeurs ont oublié, mais sans laquelle Suzuki ne serait peut-être plus là aujourd'hui.
Premier 4 temps.
C'était embourbé un petit peu dans
la... Ah oui, c'était le premier 4 temps, effectivement. Il y a Nicolas qui me précise que c'était le premier 4 temps, parce que Suzuki, c'était surtout alors, au début des bicylindres, avec les T20, T500, voilà. Et ensuite en 3 cylindres.
Il y avait une 750 de temps aussi. Hein.
Oui, la bouillotte, hein. On appelle ça la bouillotte. Ouais.
Exactement. 750 de temps. Les motos seront présentes le week-end prochain. Et c'est vrai que Suzuki avait aussi tenté l'aventure du moteur Rotary.
Ouais. Ah oui, alors il y a cette fameuse Rotary qui a fait un flop au final. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc s'il ne s'était pas rattrapé avec la GS750,
il n'y avait plus de Suzuki. Voilà.
C'est ce qui a sauvé la marque.
Ouais. Exactement. Voilà. Alors... Et bon, c'est vrai que c'est une marque qui a beau être un petit peu le troisième larron parmi les quatre grands constructeurs japonais. C'est quand même une marque qui s'est fait catailler sa réputation sur un rapport qualité-prix, on va dire, très très intéressant. Donc, c'est une marque à laquelle on va rendre hommage. On aura aussi des motos de cross. On a tenu à la rédaction à ce qu'il y ait des motos de cross, parce qu'il faut rappeler que Suzuki a quand même remporté, je crois, une trentaine de championnats du monde.
Donc, avec Joël Robert aussi,
Rinaldi,
les premiers.
Ouais.
Exactement, les pilotes belges, dans toutes les catégories, 125 avec Rallier avant qu'il ne fasse du rallye raid, 250 avec Jobé avant qu'il ne passe en 500, enfin bref. On aura une belle brochette de Suzuki, puis c'est pas seulement l'expo, on aura aussi bien sûr des clubs. Il y a beaucoup de clubs Suzuki qui sont très actifs, Club RG, Club GSXR, donc ils vont mettre un point d'honneur à monter de belles expositions sur leur stand, parce que je rappelle que le Salon Moto Légende, c'est aussi 60 clubs présents, donc c'est l'occasion pour les visiteurs de rencontrer tous ceux qui font les acteurs du milieu de la collection en fait. Des professionnels aussi, puisqu'on a 150 pros qui seront là, parmi lesquels certains sont spécialisés en Suzuki. Et puis 300 boursiers, puisqu'il y a une grosse bourse aux pièces détachées également, comme vous le savez. Donc tout ça sur 12 000 mètres carrés, donc ça fait beaucoup de choses à voir.
Est-ce que tu peux venir deux mots pour... c'est la première fois que le club Burgundy Classic sera présent donc, au Salon Moto Légende.
Alors, il y a tous les ans, on a des nouveaux clubs, des régionaux. Alors ceux-là, je dois t'avouer que je ne les connais pas encore très précisément. Ce sera l'occasion aussi pour nous de faire leur connaissance sur place. Mais oui, parmi les 60 clubs, il y a des clubs régionaux aussi, comme le Burgundy dont tu viens de parler, mais je pense aussi au Gavap, plus près de vous.
Oui.
Le groupement des amateurs de véhicules anciens de Picardie, qui... tous les deux ans organisent le Tour de France des motos anciennes. Et donc ils seront là cette année pour présenter leur prochaine édition qui aura lieu cet été. Un vrai Tour de France en plus, hein, puisqu'ils partent de Flixecours, donc en Picardie,
oui,
pour faire 4000 km tout autour de la France.
Il y a aussi l'espace Sicilien aussi. Hein. Il y a Benny Club de France, le CBX Club de France et le Z1300.
Exactement, les 6 cylindres seront aussi dignement représentés avec une belle exposition menée par les clubs. Benelli Z13.
Voilà, très bien. Quelques informations pratiques.
Oui, alors le salon débute vendredi, donc ça se trouve au parc floral de Paris-Vincennes, donc juste en face du château de Vincennes, pour ceux qui connaissent un peu. Très facile d'accès par les transports en commun, bien entendu. Et donc il démarre vendredi à 17h jusqu'à 22h pour une nocturne. Et puis samedi dimanche, donc toute la journée, de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.
Voilà. Cette semaine, comment saura-t-on si le salon a lieu ou pas ?
Alors on a un site dédié au salon, donc salonmotolegende.fr. Ça sera bien entendu précisé, mais bon, il y a très... y a peu de chances que le salon n'ait pas lieu. Très franchement, j'espère qu'on pourra le maintenir. Mais c'est vrai que j'invite quand même les spectateurs à se renseigner au préalable, parce que avant d'envisager un déplacement. Mais bon, on va croiser les doigts, parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, ça serait quand même mal.
Oui, on comprend. D'accord, on va parler du tarif, c'est 15 euros si on prend son billet à l'entrée, hein, 13 euros en pré-vente, et gratuit voilà. Pour les moins de 12 ans.
Gratuit voilà. Pour les moins de 12 ans, voilà.
Voilà. Très bien, on va terminer l'interview, on va se quitter Bertrand, mais je précise aux auditeurs que ici nous avons des entrées à offrir donc aux auditeurs, eux ils vont économiser 15 euros, voilà, si on va donner notre numéro de téléphone après à l'antenne. Et donc Bertrand, on te souhaite un bon salon, qu'il ait lieu au moins déjà.
Eh ben merci, bonne émission à vous, c'est toujours un plaisir.
Qu'il y ait beaucoup de monde aussi, parce que je sais que l'année dernière vous avez pété plein des scores là. Hein.
Voilà, ça fait plusieurs années consécutives qu'on augmente les scores, comme tu le dis. On devrait accueillir, je pense, autour de 20 000 spectateurs.
Alors nous, on est fidèles aux spectateurs, on y va aussi tous les ans, et c'est à la limite, on arrive le samedi, on n'arrive même plus à circuler. Hein. On n'arrive plus à s'arrêter devant les stands, on est dans la foule, on est dans le flot des spectateurs.
La rançon du succès. Alors il y a quelques réflexions qui sont menées pour voir si on peut pas trouver un lieu plus adéquat, mais
alors j'ai une autre question, parce que je sais pas si c'est l'année prochaine ou dans deux ans, les motos d'avant 2000 ou 94 seront interdites dans Paris.
Oui, alors ça c'est un sujet qu'on suit de près. Alors pour l'instant on n'en sait pas plus concernant les motos anciennes, mais il y a très forte chance de probabilité pour que, comme pour la voiture, les motos de collection puissent avoir droit à quelques dérogations. Donc je sais que la Fédération française des véhicules d'époque travaille d'arrache-pied sur le
ce qui veut dire qu'il va falloir une déclaration, un papier pour se rendre au salon.
Ou alors il faut faire le salon ailleurs.
Moi je pense que Claude nous a dit qu'il faudrait faire le salon. C'est devenu trop petit. Et si c'est en dehors de Paris, éventuellement on pourra venir avec nos motos.
À Lille par exemple
ou à Lille, oui. Comme il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant à Lille. Il y a le Cypercross.
Vous avez des lieux très accueillants.
Oui, mais je pense qu'il faut réfléchir. Et c'est pas très loin de Paris. Voilà, très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie, et puis je vous donne rendez-vous donc le week-end prochain.
Le week-end prochain, oui.
Très bien, merci.
À très bientôt.
Merci. Voilà, avant de reprendre notre discussion hein, sur cette saison, ce championnat du monde de vitesse 2015, on vous rappelle que nous avons des entrées à vous offrir hein, pour cette 18e édition du Salon Moto Légende. Donc vous nous appelez au 03 20 91 24 00, mais s'il vous plaît, pendant les morceaux de musique, N'hésitez pas.
La standardiste est malade.
Ouais, elle est malade, elle a mal à sa gorge, voilà, elle a une angine. Et donc le 03 20 91 24 00. Voilà, Nico, on revient un petit peu. Donc comment ça va se passer l'année prochaine, on imagine? Il va y avoir de la rancœur entre Rossi et Marquez.
Ben, Rossi est fort rancunier. Avec ce qui s'est passé, il y aura forcément des soubresauts sur la saison de l'année prochaine. Déjà, est-ce que Lorenzo... Il y a eu un mur par le passé dans le camp Yamaha.
Ben là, les deux pilotes... Avec Biaggi.
Oui. Et donc là, il y a Lorenzo et Rossi qui se retrouvent dans la même écurie, parce qu'il y a quasiment pas de changement.
Le mur, c'était justement entre Lorenzo
et Rossi.
Et l'arrivée de Lorenzo chez Yamaha.
Oui.
Et Rossi.
Et là, pour les dernières informations, c'est tendu entre Lorenzo et Rossi aussi. Et Jervis disait, ça va être très dur à gérer, mais il a l'habitude.
Ils ont même box, il n'y a pas de mur qui les sépare. Hein,
Pour l'instant. Mais ils pourraient bien reconstruire un mur.
Ça va être pas facile dans les circuits de construire un mur à chaque fois maintenant pour Lorenzo Rossi.
Rossi va croiser Marquez à longueur de saison. Qu'est-ce qui va se passer?
Les conférences de presse, voilà. Les après-courses.
Voilà. Donc on est sur un... Sur une logique, là, ça va être compliqué. Et après, pareil, qu'est-ce qui va se passer en course? Parce que Rossi va faire payer tout ça.
Ah ouais. Rossi, je crois qu'il va...
S'il peut, il va faire payer.
C'est pas un temps. Parce que s'il a fait ce qu'il a fait, là...
je pense.
C'est que c'est...
Donc, on part dans une logique qui va être compliquée. Et je sais pas comment...
Écoute, on verra bien. Avec les on fait pas faire le machin. On verra bien l'année prochaine comment ça va se passer. Moi, j'ai une question. Quels pilotes de MotoGP vous ont impressionné cette année?
Alors, Claude.
Ah tiens, ouais. ni les quatre grands, puisque de toute façon ils avaient les meilleures motos. C'est vrai que c'est quand même les meilleurs pilotes. Pedrosa m'a impressionné en fin d'année. Avoir renoué comme il a fait vraiment avec sa moto en une saison, parce qu'au début il était...
Non mais il avait des problèmes.
Il s'est fait opérer, il a manqué beaucoup, il est revenu mi-figue, mi-raisin. Et d'un seul coup, on l'a retrouvé.
Et lui, c'est un mec propre. Hein,
Je pense pas que ça serait passé avec lui.
Là-dessus, on est tous d'accord. Je pense qu'il a maintenant quelque chose de plus qu'il n'avait pas avant, Pedrosa, c'est qu'il a la hargne, il arrive à se battre avec les autres en étant plus virulent qu'avant.
Il y a un pilote qui va peut-être impressionner l'année prochaine, c'est Vignoles sur la Suzuki.
Oui, justement. Ouais.
Déjà cette année, hein,
c'est
rookie,
un rookie.
Hein,
c'est un rookie. Il a pratiquement fait jeu égal avec
son
Alex Espargaro. Ouais. C'était tout juste hein, au niveau points, à 5-6 points d'avance. Mais c'était tout juste.
Les Suzuki ont bien progressé cette année.
Ils ont bien progressé. Il manque
première
de moteur.
Saison, hein, première saison quand même.
Première saison.
Ouais,
c'est
voilà,
ça,
donc c'est impressionnant. Hein.
Quand on regarde les autres, il n'y a personne qui a fait pareil.
Il est très jeune. Hein, ouais.
Bah voilà.
Il y a Yannone aussi.
Les Ducati ont marqué vraiment le début de saison.
Alors on va revenir sur Ducati. Alors en Australie, une vraie bombe, c'est Ducati.
Au niveau vitesse,
on ne comprend rien. Alors, il y a des moments où c'est une tortue, il y a des moments où c'est un lièvre.
Ils ont toujours eu un moteur. Quand tu regardes bien.
Vous trouvez ça normal? Comment la pêche qu'elle avait, cette bécane?
Ils ont une baisse de régime en milieu de saison. Ouais. C'est-à-dire qu'en début de saison, Dovizioso était pas mal. Et en fin de saison, Yannone était vraiment très fort. Et au milieu, ils ont bricolé un peu.
Dovizioso, on dirait qu'il a jeté l'éponge à un moment donné.
D'ailleurs, c'est une grosse déception.
C'est une grosse déception. Qu'il a chuté, Yannone, parce que là, à Valence.
Ah oui, il aurait pu se passer quelque chose.
Il aurait pu se passer quelque chose à venir s'intercaler.
Mais est-ce que les Ducati, ils n'étaient pas avantagés par le règlement au début de saison?
Si.
Légèrement, mais il faut bien qu'elles reviennent au même niveau. Donc c'était un petit peu... Elles avaient le droit des pneus plus tendres, elles avaient le droit à un peu plus de litres dans le réservoir. Mais il paraît qu'ils ne l'ont pas utilisé. Et qu'en course, ils ne peuvent pas utiliser le pneu tendre, il ne tient pas. Donc
c'est juste pour
les qualifications. Ouais.
Bon voilà, on va passer. Donc ça, c'est les pilotes qui vous ont impressionné, dernier.
Il y a Petrucci aussi.
Pas des questions là.
Petrucci. Bradley Smith aussi, il a fait une excellente saison. D'année en année, on le sent mûrir et il fait de plus en plus fort.
Celui qu'on a fait avec l'interview
deuxième moto. Elle a pratiquement les mêmes configurations que Petrucci aussi, mais il a quand même terminé en cinquième position.
Petrucci, il a quand même fait deuxième à Silverstone.
Oui.
Et toute année, il est toujours là.
Toujours sous la pluie, sur des parties délicates.
Moi, je suis désolé, je vais vous parler des choses qui vont mal. C'est comment se sont comportés les Français, Mike Di Miglio et Loris Baz.
Ben non, mais. Oh, oh. Alors, ça, Laurent,
moi,
alors
pour moi, Baz, il a bien rempli son rôle.
Je voudrais bien t'y voir.
Ouais, toi, pas si mal. Moto. Deuxième Open. Ouais.
Il a fait une course extraordinaire sous la pluie. Hein. Ouais. Vraiment extraordinaire.
Baz, hein. Il a parfaitement rempli son contrat. Hein.
Ouais, ouais. Mais il n'a pas été gentil avec les ses commentaires sur Rossi. Donc, Baz, j'apprécie.
Il n'est pas dupe.
Qu'avant.
Non, mais.
Alors, je ne suis pas d'accord.
En plus, il a quand même eu une saison très difficile parce que son team manager est allé en prison en cours de saison. Donc, il a manqué le Grand Prix d'Indien.
Cela dit, ils ont un beau camion parce que je les ai rencontrés sur l'autoroute en rentrant. J'ai fait des photos avec les chauffeurs et le camion. Et ils ont encore du beau matos. Non, ils étaient à l'arrêt sur. C'était du côté de Perpignan et ils ont encore du beau matériel, voilà. Donc ils ont dû renflouer les comptes.
C'est pas beau de Mac. Ils ont renflué les comptes. Oui, mais c'est un italien, le manager.
Mike Meglio, toujours
beaucoup de chutes.
C'est pas demain qu'on va avoir un champion du monde français en MotoGP. Ça c'est sûr.
Ouais. On en reparlera quand Zarco arrivera. Hein.
Ne serait-ce que une victoire.
Ouais. Mais il vaut mieux être champion du monde Moto 2 que dernier en MotoGP.
Oui, c'est Zarco. Ce voilà. Bon, on n'en est pas là. On termine avec cette catégorie MotoGP. Les changements, peut-être qu'on en parlera tout de suite ou après. Parce qu'il y a les changements. Le pneu, puis l'allumage électronique, qui va.
Alors, en fait. Au niveau des transferts de team, il n'y a pas grand-chose. Tous les teams de pointe conservent leurs pilotes. Il n'y a qu'une seule arrivée, c'est Rabat. Donc, on va avoir vraiment le même plateau que cette année, quasiment. On change de pneu, Michelin, à la place de Bridgestone.
Super inconnu.
Inconnu, on a déjà eu des premiers essais. Tout le monde dit que l'arrière est meilleur, bien meilleur que le Bridgestone. Et que l'avant, il faut travailler pour l'adapter parce que c'est très différent. Mais à voir, ça te convient très très bien aux Honda et aux Suzuki. Vinales, ça fait le deuxième temps, meilleur temps, il a battu le record de la course avec un pneu qu'il découvre. Donc pas mal quand même. Hein.
Il y a juste un petit changement. Scott Racing, il va partir chez Ducati.
Scott Racing part chez Ducati et c'est Rabat qui prend sa moto.
Et Loris Baz a une Ducati l'année prochaine.
Oui, parce qu'il y a Vinta part en Ducati.
Après, il faut parler du système d'exploitation. Là,
le boîtier électronique.
Les factories vont utiliser le même système.
Il n'y a plus de factory, plus d'open. Tout le monde a la même chose.
On simplifie les choses.
Voilà. Tout le monde a le droit à 22 litres en réservoir. Tout le monde a le droit à 7 moteurs dans la saison. Et tout le monde a la même électronique. Alors, il y a quand même
des discussions. Ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à maintenant. Hein.
Non. Mais ils sont déjà en train de tergiverser en disant est-ce que pour les qualifs, on peut changer un capteur, des trucs comme ça. Donc, ça commence déjà à bricoler. mais oui, normalement, tout le monde a la même chose. Donc là, ça va resserrer le plateau, normalement. Les petits jeunes, on va les voir devant beaucoup plus, à mon avis. Il y aura moins de différence entre les motos.
Ouais, mais il ne faut pas oublier qu'on dit ça depuis des années et on a toujours les quatre toujours premiers.
Les meilleurs restent les meilleurs, ça ne change rien.
On a beau changer les règlements.
Il y a une marque qui prend toujours beaucoup de temps à venir, mais des fois ça marche bien, c'est Aprilia. Faut pas l'oublier.
Il part de très loin.
Voilà. Donc ça, c'est sur les principaux changements pour l'année prochaine en 2016. Donc les pneus, donc c'est quand même important. Ben, on voit bien que les pneus, c'est 40%, 50% d'une victoire. Hein.
On parle de l'arrivée peut-être aussi prochaine de KTM aussi.
KTM en 2017. Oui,
KTM 2017.
Voilà. Ouais. Et ils feront quelques grands prix en 2016. Ouais.
Bon, on fait une pause musique et après on va enchaîner sur la Moto 3. Voilà. Et pour terminer avec en apothéose avec la Moto 2 avec notre champion français Zarco.
Exactement. Voilà.
Allez, musique et on se retrouve après. Start you fooling deep down in my bed. Allez, spécial saison 2015, championnat du monde de vitesse. On passe en Moto 3, alors un Anglais champion du monde en Grand Prix. Ce n'était pas arrivé depuis
Barrichine.
Barrichine, eh oui.
En 76 Barrichine. Et 77.
Oui.
Ça remonte quand même à un lustre.
Et c'était un beau champion, parce que c'était
un petit air en Valentino Rossi en plus.
Mais je suis pas sûr que ses nerfs tiennent bien, hein, parce que franchement, début de saison
incroyable.
Alors incroyable, il y avait 110 points d'avance sur tout le monde, sur Battistini qui était à 110 points derrière, et sur les 6 derniers Grands Prix, et ben il va tout perdre.
Ah, ça,
il
c'est
va
pas
terminer,
bon, hein.
Il va terminer à 6 points ouais. du deuxième.
Il y a Miguel Oliveira qui est venu
et Olivier troubler Rhin, ses plans. Voilà. Mmh.
Alors, mais il faut dire aussi que quand on regarde une course de Moto 3, on se rend compte que c'est une bagarre, c'est-à-dire que ça change de leader à chaque virage. Donc quelquefois, il est loin, mais il est tout près. C'est-à-dire qu'il suffit de se faire avoir dans le dernier virage ou dans l'avant-dernier pour que toutes ses chances soient amenuisées alors qu'on a mené toute la course. Donc quand on regarde le championnat, le nombre de tours était devant, il est largement en tête du championnat. Alors par contre, c'est en Moto 3, il y a tellement de bagarres, c'est tellement spectaculaire qu'on peut tout perdre sur un mauvais choix dans le dernier virage.
Vraiment, t'es stratège.
Oui, c'est stratégique.
Tu te mets en aspi dans le dernier virage, et éventuellement, et si... c'est toi qui vas pouvoir gagner la
voilà.
course.
Si t'es devant dans le dernier virage, c'est mauvais parce que derrière il y a les gens qui ont l'aspi.
À la fin de saison, il mettait plus un pied en santé. Ah, il était tétanisé. Il était tétanisé.
Il y avait la pression.
On le voyait bien. Dès qu'il se faisait doubler avant, il repassait une fois, deux fois, très vite. Et là, il était parti, enfin, il était... Mais bon. Olivier Rhin, au contraire, il a marqué la fin de saison. Sur les 6 derniers, 4 victoires et 2 deuxièmes places. Je crois qu'on peut rarement faire mieux.
Surtout dire que Danny Kent, il y a eu chaud aux fesses.
Il y a eu vraiment chaud aux fesses, hein, je pense. Ouais. Ouais.
Et d'ailleurs, ces deux-là, ils vont être coéquipiers l'an prochain.
Ils vont être coéquipiers l'an prochain.
En moto 2. Et Danny Kent a déjà été en moto 2. Il a fait un petit intermède.
Qui n'a pas réussi du tout, puisqu'il n'a pas marqué de points.
Il était chez Tech 3. C'est pas la meilleure moto 2. Non. Et donc, mais par contre, il connaît très bien la Moto 2 déjà, parce que il y était, il est redescendu en Moto 3. De Moto 2, il est redescendu en Moto 3 pour être champion du monde quand même. C'était le bon plan.
La deuxième année.
Il était monté de Roto. D'abord sur Husqvarna, et puis cette année Impériale hein, quand même, malgré une fin de saison difficile.
Si on parlait un petit peu des espoirs français, parce qu'il y avait un petit gaillard qui arrivait là, de Fabio Quattararo.
Voilà.
Il manque l'euro. Quattararo. Et il y avait Gilles Danilo aussi, notre petit Lillois.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Alexis Masbou.
Hein ? Et Alexis Masbou aussi.
Qui a gagné le premier Grand Prix, mais Alexis Masbou. Et après, plus rien.
On y croyait, et puis après, ça s'est effondré complètement.
Quattararo, malheureusement, tu vas me dire, c'est la 7 première saison. Hein. Il s'est fait mal,
jeune,
il s'est pété une cheville.
Il avait 15 ans.
Aux essais.
Aux essais.
Il a débuté il y a 15 ans.
Alors justement, est-ce qu'on mettrait pas la pression sur parce que l'année dernière, c'était,
il se l'est mis tout seul.
Alors ça y est, on voyait déjà champion du monde, je le voyais déjà en haut de l'affiche. Hein.
Je pense qu'il était dans une équipe.
Et ça, c'est pas bon.
Il était dans une équipe
pour un jeune comme ça,
qui était une équipe qui est habituée à avoir des champions. Alors que lui, c'est un champion naissant. Il aurait fallu qu'il soit dans une équipe qui l'accompagne davantage, à mon avis. Il n'a pas été dans le team forcément adapté. Il a été un petit peu laissé pour compte en lui mettant la pression sur les épaules. Alors que il aurait dû être, on aurait dû au contraire lui dire, cool, c'est ta première année, tu apprends et on verra après.
Parce que son chef mécanicien lui a dit, il faut finir tes courses. Et c'est pas de gagner, finis tes courses. Mais quand on écoute ce qu'il disait vraiment à l'écran, moi j'ai entendu dire, je veux gagner un Grand Prix cette année.
Non, il veut champion Moto 3, il veut champion du monde Moto 2 et champion du monde Moto GP. Déjà, tu sais, quand tu dis ça,
tu te mets une sacrée pression sur les épaules.
Alors, bien sûr qu'il faut avoir des gens comme ça qui. Je suppose que pour être champion, il faut avoir un caractère comme ça. Oui, mais. Tu peux aussi retomber très bas.
Mais pour marquer des points, il faut finir les courses.
Il faut finir les courses. Exactement.
Il y en a un qui a compris, justement, son coéquipier, Navarro.
Lui, il a.
Il y a même Miller en Moto Grand Prix qui dit que quand on arrive, on croit qu'on va tous les bouffer. Et puis pour finir, on se rend compte que c'est pas si évident que ça.
Et c'est pas si évident. Donc ça, c'est facile de regarder, hein, mais un problème de faire, c'est pas facile.
C'est ça.
Voilà. Et donc, Masbou, alors, et puis Jules Danilo, alors c'est le petit Lillois, Jules Danilo, de la région ici. Hein.
Voilà, il a progressé vite l'année dernière, mais par contre, il y a manqué un petit quelque chose. Je ne sais pas quoi, hein. Peut-être la machine, peut-être le pilote, je ne sais pas. Mais il lui a manqué
quand même. Il faut rester quand même.
Pour finir.
Jeune Daniel, il reste dans la même équipe l'année prochaine. Et Fabio Quartararo,
il change d'écurie,
il prend la moto de Danny Kent, la moto de championne du monde.
Ouais.
Ah. Et là, il va retrouver Christian Lundberg, qui était l'ingénieur avec qui il avait gagné en championnat d'Espagne. Donc je pense qu'il aura, il aura un environnement
un peu meilleur.
Ouais, et je pense que là, il va décoller.
D'accord. Puis bon, ça va être ouvert, puisque les deux premiers du championnat vont partir en moto 2. Donc,
On peut espérer, effectivement, pour l'année prochaine, d'avoir ce Quartararo champion moto 3.
Ben, c'est peut-être un peu chaud, mais...
Avec un environnement un peu
plus... Il sera parmi les animateurs de la série, c'est sûr.
Très bien. Il y aura toujours Fenati ou Bastianini aussi, qui ont fait une bonne saison.
Et Navarro. Attends,
stop, parce que là, on va passer un morceau de musique, mais on arrête de téléphoner.
Il faut arrêter de téléphoner, puisqu'on a Nicolas, Pierre et Caroline qui ont gagné les places.
Et puis Gérard et puis Bastien aussi.
Voilà.
Là, qui ont gagné des places. Donc, voilà. Et on va passer un morceau de musique et après on va
On va finir le moto 3.
Oui, on finit le moto 3. Oui.
Ouais, voilà. Donc on aura une moto Peugeot.
Avec un moteur Mahindra.
On aura une Peugeot donc l'an prochain qui va être en Grand Prix.
C'est bizarre. Pourtant, on n'est pas au 1er avril. On est encore au mois de novembre.
Mahindra a racheté Peugeot.
Oui. Voilà, c'est
donc,
ça. La branche de route Peugeot a été revendue à l'Indien Mahindra.
D'accord. C'est pas si vraiment ça va être porteur Peugeot sur le réservoir.
Ça fait bizarre. Mobilette.
Mobilette.
C'est un moteur de 103 SP. C'est un moteur de 103 SP avec un carbu 22.
Je sais pas vraiment si c'est une bonne affaire.
Moi, j'ai pas vu ça depuis les 8 heures de Lille.
Sais-tu juste une chose que moteur Peugeot a gagné au TT, au Tourist Trophy.
Oui, bien sûr. Mais si elle
gagne. En 1907, le premier Grand Prix.
1907,
tu peux mettre n'importe quel nom. Si tu gagnes, on va te respecter.
Oui,
par contre, si tu perds tout le temps, là, méfie-toi, parce que là, on va te dire, t'es une Peugeot. Alors,
mais bon, en rallye, ils ont été bons, Peugeot, donc c'est une image de marque.
Il y a eu plusieurs saisons aussi où Motobécane a couru, et au début, on a bien rigolé, et puis après, comme ils ont gagné, on a moins rigolé.
Et l'année prochaine, Alexis Masbou, il sera sur Peugeot.
C'est dingue.
Un Français sur une moto avec un nom français, indienne.
On comprend plus rien du tout.
On comprend plus rien maintenant.
Les Indiens, ils achètent Peugeot. Et Peugeot, il revient en Grand Prix avec des Indiens. Ouais. C'est incroyable. Bon, allez, un coup de musique et on se retrouve après pour la moto 2.
Better world for me and you. Oh, I
Au téléphone, nous avons Nathalie Petitpré qui propose le don du sang motard donc demain à Flers en Escroubieux. C'est entre Lens et Douai. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Explique-nous un peu comment ça va se dérouler.
Alors demain, de 15h à 19h à Flers, donc en Escroubieux, j'organise le premier don du sang motard. Suite à l'animation que j'étais venue faire avec vous le 7 juin
oui.
2015. Donc voilà, j'avais essayé de prévoir des dates sur des concentres. Malheureusement, faut au moins 70 dons.
Attends, on va revenir un petit peu sur cette émission. Tu proposais qu'effectivement, à chaque manifestation moto, on pourrait faire un don du sang. Donc, parce qu'effectivement, il y a toujours pas mal de motards hein, qu'on va sur un circuit. Donc c'est ce que tu proposais.
Oui, voilà, donc c'est ce que je proposais. Malheureusement, il faut 70 dons pour qu'une collecte soit vraiment rentable. Donc je me suis calquée sur des dates déjà existantes de l'EFS, à savoir les dates de Flers en Escroubieux, là où je démarre l'action. Après, ça n'empêche pas que je peux faire d'autres dates dans l'année. Ailleurs, c'est même peut-être à prévoir chez des concessionnaires éventuellement, à voir avec eux, ça c'est en prévision, je vais discuter de tout ça. Donc là, le don a lieu demain entre 15h et 19h. J'ai d'autres dates pour 2016. J'ai déjà le 21 mars, le 4 juillet et le 14 novembre. Qui seront peut-être plus...
Très bien. Bah, tu nous rappelleras.
Je rappellerai tout ça. Il n'y a pas de souci. Ce sera au calendrier de toute manière.
Demain, c'est à partir de 15h, tu nous as dit. Hein.
C'est ça. Donc, j'ai des petits cadeaux prévus pour les motards. L'engouement que je vois sur la page Facebook, c'est impressionnant. Il y a énormément de partages. Bon, je pense que c'est un peu dû aux événements. Donc, plus jamais, les besoins sont importants. Mais il faut savoir qu'au quotidien, déjà, les besoins sont vraiment importants. Plus jamais évidemment, mais déjà au départ l'idée était là avant.
Très bien. Donc ça se passe derrière la mairie de Flers en Escroubieux. Voilà, c'est entre Lens et Douai, à partir de 15h jusqu'à 19h.
Voilà, au centre d'action communal d'action sociale derrière la mairie. Donc ce sera indiqué, moi je serai là pour accueillir les motards sans problème. Et puis.
Et tu as des petits cadeaux pour les motards, voilà.
Voilà, j'ai des petits cadeaux à leur donner, exclusivement pour eux. Donc voilà, je serais vraiment ravie de les accueillir. J'en ai trouvé quelques-uns sur le forum des associations ce week-end. J'espère qu'ils vont tenir leur promesse de don demain. Et puis voilà.
Donc, très bien. Eh bien, Nathalie, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de monde demain.
Oui, ben je pense aussi, j'espère et je pense, vu l'engouement.
Et quand tu connaîtras les dates, enfin tu les connais déjà, mais tu nous rappelles.
Oui.
Ça, on pourra les repasser à l'antenne.
Je mettrai au calendrier, il n'y a pas de souci.
Très bien, merci. Voilà. Bon dimanche.
De rien, bon dimanche à toi.
Merci, au revoir. We'll be right back.
about 200 miles across. Officials are also advising people to be prepared for the aftermath.
Voilà, on va revenir, on va terminer avec cette la catégorie Moto 2. Hein. Donc on a conservé le meilleur pour la fin. Hein.
Cocorico.
Donc, finalement, Cocorico. Là, on a demandé à Laurent s'il y avait une Marseillaise, mais il n'y en a pas en stock. Donc c'est pas grave. Donc Johan Zarco, champion du monde. Hein. Ouais. Et bien, avec du panache. Hein.
Ah, avec du panache. Avec vraiment du panache. Hein.
Combien de points d'avance sur le deuxième, Claude?
Il y avait pratiquement 120 points d'avance, ouais, pratiquement 118 points.
Il a 352 points, le Alan Sri
118,
334. Donc oui,
Sir Rossi avait eu 118. Autant de points d'avance, il serait pas
exactement, ah, exactement.
Oui, mais par contre, il aurait fait une course chiante.
Ouais. Bah. Il a eu 14 podiums, 8 victoires. Il aurait pu même en avoir une de plus s'il n'avait pas eu un souci de sélecteur.
Sélecteur, on l'a vu
au Qatar. Ah, oui. Il avait course gagnée et puis il était largement devant.
Il a failli aller percuter le mur parce qu'il regarde son sélecteur, il dérive.
Il ne comprenait pas pourquoi le sélecteur est en train de se barrer tout doucement. Ouais.
Sinon, c'était 25 points supplémentaires et c'était la première course de la saison.
Ouais. Et c'était la première course de la saison.
Et ça ne l'a pas déstabilisé parce qu'il s'est remotivé.
Oui, parce que dans son stand, on l'a vu sourire, il a embrassé ses mécaniciens et tout ça, parce que les mécaniciens, ils tiraient une tronche plus que lui jusque par terre. Parce qu'il avait dominé les essais, dominé la course, donc pour lui, tout allait bien. Même s'il n'avait pas gagné.
Cette année, il avait une sérénité, une maturité qu'on ne lui a jamais vue.
Il est incroyable ce mec. Ouais. Il est zen.
Ouais.
Dis donc,
quand à la fin de la course,
il est devenu zen.
Il est devenu zen.
Ah non, mais là,
l'année dernière, avec toutes les merdes qu'il a eues l'année dernière,
il doit bien méditer.
Il a changé de team manager et il est bien conseillé.
Quand il y a l'interview, on le voit après les courses, tout ça.
Il est serein.
Et quand il fait une erreur, il dit ça me servira pour l'année prochaine, c'est une expérience.
Il admet ses erreurs.
Il est positif en fait.
Il est positif.
Attitude.
Incroyable, zen attitude.
Comme Rossi.
Mais Rossi,
lui, c'est pas un manipulateur.
Rossi fait plus des saltos aussi.
Eh oui, à chaque victoire, on a eu des backflips. Ça aussi, c'est sympa.
Ah ouais, ça, c'est super. Il est fort là aussi.
Parce qu'avec les bottes de moto, le casque, la combi, monter sur le muret ou sur des pneus à peine stables et faire un backflip, chapeau, bravo.
Rappelle que c'est qu'un backflip, parce que j'en ai vu plein hier soir là au Supercross.
Ben, c'est un saut périlleux en arrière.
Avec l'équipement.
Attendez,
je vais revenir un peu sur le Supercross parce que hier soir on a vu un backflip avec un quad.
Un quad, alors là, impressionnant, 200 kilos le quad. Impressionnant.
Je vais rester un peu scotché quand même. Bon, enfin bref. Donc voilà, alors retour saison impressionnante, effectivement, on peut dire que ce type.
Et Rabat n'aura pas alors gagné on pensait, son deuxième championnat.
Alors, on pensait qu'il allait monter en moto GP et.
Comme on a dit, il n'y a pas de place cette année. Parce qu'ils conservent. Toutes les équipes de pointe conservent leurs pilotes.
Mais Zarco a été titré chez lui parce que Rabat s'est blessé. Donc, si je dis pas de bêtises.
Il était au Japon.
Au Japon. Ouais. Donc, il a été titré chez lui parce qu'il avait assez de points d'avance. Pour terminer la saison.
Oui, sachant que Rabat ne pouvait pas courir, de toute façon,
Non, il a été titré avant de courir, tu veux dire.
C'est la première fois que ça arrive.
Parce que Rabat a déclaré forfait parce qu'il était blessé, exact. Mais n'importe comment, il avait largement de points d'avance et il restait encore 3 Grands Prix.
Et je crois que le dernier Grand Prix, il a travaillé pour l'année prochaine, d'après ce que j'ai pu comprendre là-bas en Espagne. Je pense qu'il a travaillé pour sa saison prochaine. C'est pour ça qu'il a fini 7 ou 8e.
Bah, c'était triste, ouais, c'était un petit peu loin. Mais 7 ou 8e, on s'en serait bien contenté il y a quelques années.
Oui, il y a quelques années, oui. Quelqu'un rentré dans les 10 premiers à chaque fois, on a dit waouh, super.
Attention, parce que ce gars-là, c'est le seul Français qui a gagné autant de courses.
Autant de courses, oui.
Jamais un Français n'a gagné autant de courses.
En 2,5, il y avait
Christian Sarron.
Christian Sarron. Oui, Nicolas avait fait attention, fais-toi la qualité, attention à l'émission, attention, c'est important. Donc, Christian Sarron,
il y avait 7 courses, 7 victoires. Par contre, maintenant, pour battre Christian Sarron, il faudrait qu'il monte en MotoGP et qu'il gagne un grand prix.
En catégorie reine,
parce que c'est le seul Français qui a. Enfin, non, pas le seul Français, mais c'est le troisième Français qui a gagné un grand prix en.
Un grand prix, un grand prix, pas un championnat, un grand prix. Attention,
sous l'appui. En Allemagne.
Et sous la pluie.
Autriche.
Mais il était bon. Il était bon. Hein. Ouais. Souvenez-vous de. Moi, j'étais, j'assistais au Grand Prix.
Ah oui,
à Spoff, encore chaud.
Ah oui, moi aussi.
Il y avait. C'était Wayne Gardner.
Wayne Gardner
qui était en tête. Et il se faisait ramener par Sarron qui était juste derrière. Et tour par tour, Sarron grignotait des demi-secondes, des quarts de seconde. Et on voyait que Gardner ne pouvait plus. Il était à l'agonie, il ne pouvait plus rien faire. Et que Sarron allait doubler Gardner. C'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, en pleine ligne droite, devant les stands, Sarron est allé sur la ligne blanche. Il pleuvait beaucoup. Il est allé sur la ligne blanche. Et là, il est tombé. Oh, la déception impossible. Non, mais c'était une petite.
Petit intermède émotion.
C'était la larme de.
Séquence émotion.
Mais je me souviens toujours de ce Grand Prix.
C'était fantastique. Quand t'as franchi le premier, oui, ça, c'est sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire un petit peu, revenir un petit peu comme en Moto3? Est-ce que, je sais pas, Nico, on continue le Moto2?
Bah, est-ce qu'il a bien fait de pas partir en MotoGP parce qu'il n'avait pas de moto compétitive? Oui, c'est sûr qu'il a bien fait. Vaut mieux refaire une saison en Moto2, comme l'a fait Rabat d'ailleurs,
oui,
en espérant d'avoir une bonne moto, plutôt que partir en MotoGP dans une mauvaise écurie, et finalement qu'on oublie les qualités, parce qu'il ne peut pas les mettre en valeur, et puis que du coup sa carrière soit... Il a raison, il n'avait pas d'autre choix. Voilà, en fait.
Il préfère être premier, même si ça sera une deuxième saison.
Bah, il préfère remettre son titre en jeu en Moto2, en espérant que s'il gagne deux titres, on lui dise, bah, tiens, ce gars-là, il faut lui donner une bonne moto. Il préfère faire ça
que rester revenir 15e en MotoGP.
Partir en MotoGP sur une mauvaise moto et jamais pouvoir s'exprimer.
Exactement.
Faut pas oublier que c'est ce que Rabat voulait faire cette année. Il l'a pas fait. Il a même terminé 3e. Hein.
Mais il a eu la MotoGP.
Oui, mais il a eu la MotoGP.
Ouais, une vraie.
Une
Honda.
Semi-officielle.
Un mot sur Louis Rossi. Alors, un mot sur Louis Rossi.
Alors Louis Rossi, c'était beaucoup de chutes, hein, 7 points au Qatar et puis plus rien. Et puis bon, faut dire que la moto 2 de Tech 3 est pas très compétitive, c'est ce qu'il avait. Et il part en super sport l'année prochaine.
Ah, en super sport.
Alors. Et un mot sur Rins quand même, hein, qui était épatant.
Un rookie, qui courait en moto 3 l'année dernière. Et donc là, chapeau. Hein. Je pense que l'année prochaine.
On le verra aux avant-postes. Ça va être dur pour notre ami Zarco.
Est-ce que vous avez. On parle de Louis. Vous avez vu Randy Puiné, là? Ça ferait un peu la fin, hein, quand même. Hein.
Ah bah oui, c'est sûr.
Là, c'est. Là,
En Superbike, ça n'a rien donné.
Donc voilà.
Il y a aussi un Belge qui a gagné cette année.
Un Grand Prix.
Devant Zarco.
Par contre, il t'a fait une chute.
De toute façon, il a fait
j'ai
pas mal de chutes.
J'ai vu la chute de la moto qui mais alors détruite. Hein.
Mais heureusement qu'il est capable de gagner parce qu'au moins on a les grands prix sur la chaîne belge alors qu'on les a pas ailleurs.
Très bien. Côté, on va se terminer parce qu'il reste 4 minutes à peu près. Hein, encore. Non, Laurent me dit non. 3 minutes. Il est très précis. Donc, alors, Claude. Jean-Pierre et Nico, on a que 3. On va vous faire un petit cadeau.
Et oui, si je vous dis Tavulia, ça vous fait penser à quoi?
Rossi.
Et oui, pays natal.
Alors peut-être pas pour
Rossi.
Jean-Pierre Bonduel, parce que lui.
Ah, mais je suis pas rancunière. Je suis pas. Bon, j'ai failli l'étrangler pendant l'émission, mais je suis pas rancunière. Donc là-bas, c'est son pays natal, Rossi. Mais c'est aussi son fan club, son resto où on mange des bonnes pizzas. Donc j'y suis allée cet été. Et donc je vous ai ramené, comme c'est bientôt l'heure de l'apéro, je vous ai ramené donc des chips aux couleurs de Rossi.
C'est incroyable.
Voilà.
Oh, les chips. chiffre. Le chiffre 46.
46, c'est
chiffre
génial.
46.
Ça existe.
Non, non, mais on a un 3.
Et je profite donc aussi de, pour vous parler de la soirée couscous le 21 novembre, organisée par Kikinkou. Donc
samedi
inscrivez-vous.
Il y a encore, samedi prochain. C'est possible.
06 11 25 02 57.
Voilà, on termine avec peut-être la saison. Oui, les clubs.
Oui, juste dire que l'année prochaine, le 8 mai, il y aura le Grand Prix de France.
Oui, alors moi j'ai imprimé donc, le calendrier prévisionnel, hein, ouais. Donc il y a un nouveau Grand Prix.
En Autriche.
En Autriche,
ouais, ouais.
Voilà. Donc ça va commencer au Qatar, ça commence toujours au Qatar de toute ouais. façon, hein, voilà, donc ce sera le 20 mars. Hein. Donc on fera une émission, on va profiter, on fera une émission peut-être le 20 ou avant, Claude.
Des émissions ouais, pour le 20 mars, on peut.
Qu'est-ce
oui,
que t'en penses
ouais. Comme les Grands Prix se passent l'après-midi, ça va.
Voilà, Nico, peut-être aussi. Ça Jean-Pierre, fait. Peut-être que tu viendras aussi
pas, oui.
pour préparer cette nouvelle saison 2016 hein,
des, pas, oui.
du MotoGP et puis Moto 2, Moto 3. Voilà. Nicolas était invité aussi, hein, bien sûr.
Moi, j'ai fait le Mans, Seine et Valencia.
Voilà, très bien. Alors, c'est la route, ça a été
voilà, impeccable. Hein, impeccable, le rêve.
T'as pas été en avion, t'as été en moto
en
là-bas.
Moto.
Hein, et ça fait combien 2500 km aller
ouais, ça fait un petit 4000.
4000 bornes,
l'année prochaine, je compte aller au Mugello pour supporter mon pilote fétiche.
Alors, Mugello, je sais où c'est.
Valentino Rossi.
On n'y monte pas en vrai. Bon, enfin, bref, voilà. Merci Christine pour ces chiffres.
Merci, de rien.
Merci. Claude, ben écoute, rendez-vous l'année prochaine.
Oui, l'année prochaine.
Au 20 mars.
Oui.
Alors, moi, je te parle plus, Balou.
Oui, oui.
Parce que moi, je ne supporte pas du tout Marquez. Enfin, je ne suis pas rancunier.
Personne ne se rend compte qu'il a parfaitement mené son jeu.
Oui, non, non, on aura jeu de
Marquez pour un méchant. On va faire un Lorenzo pour un mec qui a une briefing d'émission.
Merci, Nicolas Poiret, pour ce superbe émission. Voilà, et superbe question aussi.
Bon dimanche à tous.
Merci, Yannis.
J'ai pas dit grand-chose. Je suis venu en copain comme ça.
Dis quand même au revoir.
Au revoir, les mecs.
Merci, Nicolas. Et puis rendez-vous au 20 mars.
Allez, au revoir.
Au revoir. Allez.